spectaculaire commence, enfin. Mercredi 15 mars 2023, nous sommes les Ides de Mars aujourd'hui, oui, c'était la mort de César en 44 avant Jésus-Christ, un 15 mars également. Émission numéro 291, Eugène Gibeleanu devait être le metteur en scène invité. Hélas, moi je suis là, Christophe Rollin. Francis est dans la place. D'ailleurs, allez Francis, puisqu'on est qu'entre nous, je te permets.
J'ai le droit d'avoir le micro même avant l'horaire. Super.
Avant l'horaire. Nous devions donc recevoir le metteur en scène Eugène Gibeleanu. C'était prévu, tout était calé, hélas. Un contretemps fait qu'il ne peut être là. Néanmoins, nous avons pu obtenir de lui, ne lui avons nullement arraché par des moyens de torture ou autre, nous avons obtenu de lui une interview que nous allons diffuser pendant l'émission. On verra à quel moment nous placerons cette interview. Et il aurait dû venir pour parler de la mise en scène de l'opéra qu'il fait à partir de vendredi prochain, vendredi 17 mars, Les Noces de Figaro, jusqu'au mardi 4 avril. C'est dans le cadre du festival Franchir les Portes, festival de l'opéra de Lyon, festival annuel qui a 10 ou 15 ans, je crois. Ça fait des années qu'au mois de mars, c'est le temps fort de la saison de l'opéra, avec l'annonce de la nouvelle saison, et puis trois opéras qui sont donnés. Le château de Barbe Bleue sera également donné, ainsi qu'un opéra Blumhaus. Mais tout de même, la vedette, c'est bien Les Noces de Figaro. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure l'ouverture des Noces de Figaro. Mais pour commencer, on va écouter un titre que j'ai trouvé sur une compilation des Arocs. Un titre qui est excellent, du groupe Beirut, Postcards from Italy. Pourquoi l'Italie? Parce que l'opéra est chanté en italien. Il se passe en Espagne, hein. Les Noces de Figaro, ça suit le Barbier de Séville, c'est donc en Espagne. Le compositeur Mozart est autrichien. Le librettiste Lorenzo da Ponte, je crois qu'il est, il est napolitain, ou même peut-être pire, peut-être de Venise. Et vénitien. Et puis le metteur en scène, Eugène Gibeleanu, est d'originaire et de Roumanie, donc ça me semble assez international, sachant que Beirut est un groupe américain qui chante Carte Postale d'Italie. Commençons l'émission avec Beirut, et puis nous continuerons jusqu'à 15h avec une chronique qui sera à renumérotée. On ne sait pas si c'est la 25 ou 26, chronique presque littéraire, l'égoïsme se partage. Vous nous écoutez jusqu'à 15h, vous ferez bien, c'est sur le 102.2 de la bande FM 6 à Lyon, et si c'est sur internet, c'est très bien aussi, c'est raducanu.org. Non, 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 c'est une erreur, ce n'est pas du tout Beirut. On va trouver Beirut, attention.
The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to.
Eh bien, on sera allé jusqu'au terme du morceau. C'est une bonne chose. Hein. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas écouté les morceaux jusqu'à la fin. Il s'agissait de Beirut. Beirut, un groupe américain.
Ils sont passés au Nu de Fourvière, je suis en train de le voir, en 2011.
2011, oui. Ça fait plus de 10 ans.
Et je viens de voir qu'ils étaient passés au Ninkasi K.O. en 2007.
Ah, ça c'est encore plus ancien. Ben, eh bien, c'était certainement à l'occasion de cette l'extrait que je diffuse. Je le trouve sur la compilation des Arocs, un printemps 2006. Le titre c'était Postcards from Italy et cet extrait de l'album Goulag Orchestra qui, oui, c'est ça. La tournée 2007, c'était certainement avec.
Ça devait être ça, oui, tout à fait.
Avec ce groupe, Postcards from Italy, carte postale d'Italie, puisque nous allons parler dans cette émission. Un peu, bien moins que prévu. Nous allons parler du festival Franchir les Portes, le festival annuel de l'Opéra de Lyon. C'est le grand temps fort de leur saison au mois de mars. Ça fait des années, hein, 15 ans je crois. Et ce temps fort cette année a bien ce titre, Franchir les Portes. Et il s'agit de faire comme auparavant. Trois opéras sont proposées. Pas tous à l'Opéra de Lyon, ça n'est pas possible techniquement. À l'Opéra de Lyon ne seront donnés que le Château de Barbe Bleue de Béla Bartok, ainsi que les Noces de Figaro de Mozart, et nous devions parler des Noces de Figaro, nous devions recevoir le metteur en scène Eugène Gibeleanu qui aurait déjà pu venir, émission numéro 221 le 19 février 2020, mais j'ai l'impression qu'avec lui pour l'instant c'est l'affaire de louper. On n'avait pas pu se voir et pareil, ça avait été un peu en dernière minute, mais l'Opéra de Lyon avait été très 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 courtois, très correct. Deux chanteurs nous avaient été remis pour parler de cet opéra. I was looking at the ceiling and then I saw the sky, un opéra de John Adams qui était donné au théâtre de la Croix-Rousse. Donc voilà, on s'est manqué avec Eugène Gibeleanu en 2020. On se manque encore cette année. Et pour cet opéra Les Noces de Figaro, je l'écoute beaucoup ces jours-ci. Mais quel opéra magnifique, un catalogue d'air, mais c'est absolument stupéfiant. Musicalement, ça va être très fort. Vous allez entendre dans quelques instants que scéniquement également, pour ce qui est de la mise en scène, ce sera aussi très fort, puisque nous avons tout de même obtenu de lui une interview de 7 minutes qu'on diffusera pas tout de suite, ce sera dans un deuxième temps, et vous l'entendrez parler de la mise en scène, de différentes choses, la scénographie, les décors, les personnages, voilà, c'est dans quelques instants. Et cet opéra Les Noces de Figaro commence, en fait cet opéra c'est celui qui un peu encadre ce festival, puisque le festival commence le 17 mars avec l'opéra Les Noces de Figaro et le festival se termine le mardi 4 avril. C'est en fait la dernière également des Noces de Figaro. Entre temps, donc Château de Barbe Bleue aura eu lieu à l'Opéra de Lyon, et puis il manque le troisième opéra, Opéra Bluthaus, un opéra un peu étrange, musique de Claudio Monteverdi, avec également un compositeur contemporain, Georg Friedrich Haas, et ça c'est donné au TNP, ce n'est pas sur la scène de l'opéra. Donc vous devinez que ces dates du 17 mars au 4 avril, eh bien, il y a une sorte d'alternance pour ce qui est de l'opéra, l'opéra de Barbe Bleue, une expérience unique d'une intensité rare avec le Château de Barbe Bleue, j'extrais cela du flyer. Eh bien, cet opéra sera donné en alternance, c'est également assez intéressant, cet opéra, lui, sera donné deux fois. Comment ça, il sera donné deux fois? Eh bien, je vous lis la présentation. Aime-moi, tais-toi, n'interroge pas. Supplie Barbe Bleue, supplie Barbe Bleue tout court. Fascinée par la part d'ombre de son mari et dévorée par la curiosité, Judith transgresse les règles dictées et ouvre une à une les 7 portes interdites. Mais faut-il tout connaître de l'autre? Pour cette production, le metteur en scène ukrainien, Andrei Zoldak, choisit de nous livrer une expérience intense et peu commune, deux interprétations successives de l'opéra, comme deux hypothèses de l'inconscient à l'œuvre, les deux visages salvateurs et meurtriers de l'amour. L'opéra est court, il dure 1h10, 1h05, 1h15 à peine, et donc séparé par un entracte, eh bien, ce sont deux versions de l'opéra qui seront données les samedis 18 mars à 20h. Jeudi 23 mars également à 20h, samedi 25, mercredi 29, vendredi 31 toujours à 20h, dimanche 2 avril à 16h, 2h30 donc d'opéra, dont un entracte, ce sera en hongrois surtitré, surtitré en français bien entendu, et donc cet opéra très spécial, je crois qu'on l'avait évoqué avec Claire Delamarche, venue à l'émission il y a de cela 3 semaines pour parler de l'auditorium, mais Claire Delamarche, spécialiste de Bartok, je crois, avait évoqué, puis elle ne manquera pas de se rendre à cette expérience surprenante, voir deux opéras, voir le même opéra deux fois. C'est donc bien à l'Opéra de Lyon pour ce qui est de Bluthaus, qui est la maison du crime, traduction, qui est donnée donc à un opéra de Georg Friedrich Haas et de Claudio Monteverdi. Ce sera donné au TNP. Je n'ai pas les dates en tête. Je sais que la première ne sera pas ce vendredi, c'est Noces de Figaro, pas non plus samedi. Ce sera le château de Barbe Bleue de Bartok. Ce sera donné dimanche. Dimanche, donc, nous serons le 16 mars et c'est au TNP. Je crois que c'est donné tous les deux ou trois jours. Je donnerai les renseignements dans quelques instants quand je les aurai trouvés, ou bien vous trouverez ça aussi sur le blog. Donc, c'est le festival annuel de l'opéra, et au cours de ce festival sera révélée la prochaine saison de l'Opéra de Lyon, la saison 2023-24. Francis, ça nous projette déjà dans le futur. On a à peine fini celle-ci, même mars, là on est quoi, le 15 mars aujourd'hui, on est début de saison, et bien déjà on aura des dates qui seront données. Quel sera l'opéra de fin de saison en juin 2024? On n'a même pas celui encore de juin 2023 qui est à venir. On purge bébé, un opéra de Philippe Bosmans. C'est toujours vertigineux quand les saisons annoncent les prochaines et que ça se fait assez tôt. Je crois que ça se fait de plus en plus tôt.
Bah, j'imagine que pour les opéras, ça doit être encore plus compliqué à organiser. Ouais. Alors, mais t'as raison sur les centres culturels, c'est bientôt ils vont annoncer la saison en janvier pour la rentrée de septembre.
Mais c'est ça, c'est que ça serait partout.
Bah, les saisons culturelles, oui. Après les salles de concert plus classiques, on va dire, que tu connais maintenant avec les Pisserie Moderne ou le Marché Gare, on est plutôt sur des programmations au trimestre ou au semestre avant.
Est-ce que je peux te poser la question et changer d'air? Est-ce que la saison 24, enfin disons l'année 24,
non,
est prévue?
Non, pas du tout.
La 23 aura lieu.
La 23 aura lieu.
On lance déjà les dates,
hein? On peut lancer les dates, et puis après je vous parlerai d'un festival qui arrive dès cette semaine. Les dates du festival Changer d'air, c'est du 10 au... ça y est, j'ai plus les dates. Du 10 au 13 mai 2023.
Mercredi 10. Et c'est samedi 13, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et alors, on peut parler aussi d'un autre festival. Comme notre invité va pas beaucoup discuter aujourd'hui, on va se permettre de prendre un peu plus l'antenne. Il y a un festival qui démarre cette semaine, du 15 au 25 mars, qui s'appelle Les Chants de Mars, et qui porte bien son nom, du 15 au 25 mars, et qui est un festival itinérant dans plusieurs salles, avec des artistes que moi je connais bien, puisque je les ai déjà reçus aussi sur le festival, dont un dont j'avais envie de parler maintenant, c'est Pierre Demar, qui jouera le 16 mars au Ninkasi KO. Alors ce sera pas l'ouverture, puisque l'ouverture c'est aujourd'hui, on est le 15 mars, Christophe. Oui, c'est ça. Ce soir, il y a un premier concert avec The Doug et Mauvais Garçon, un des artistes lyonnais, Mauvais Garçon, qui joueront donc à la MJC du Vieux Lyon. Alors ce festival Les Chants de Mars existe depuis, c'est la 17e édition, c'est ce que je vois inscrit sur le site, et parmi les artistes programmés cette année, donc je viens de dire Pierre Demar, il y aura Buridan, Renan Luce, Laila Wissoud, Slogan, et puis peut-être un petit coup de lumière sur Martin Luminet, un artiste lyonnais aussi, qui commence à faire parler de lui, qui sera donc en concert au CCO le 23 mars en compagnie d'Oscar Les Vacances. Et puisque tu me laisses encore un tout petit peu de temps pour parler, Christophe, et je t'en remercie, lors de ce festival, c'est co-organisé par la salle que j'aime beaucoup, la salle À tout bout de champ, que nous avions reçue, je crois, il y a un mois, il me semble-t-il. Ils organisent ce qu'ils appellent les 24 heures du mot. Alors, les 24 heures du mot, ils appellent ça un challenge créatif, où une vingtaine d'artistes de la scène régionale se rassemblent, et puis, pendant 24 heures, font un challenge créatif avec plein de surprises, et ils essaient d'écrire des chansons. Enfin bref, c'est tout un spectacle qui est donné après le 21 mars à 20h à la salle Barbara de la MJC Montchat. Donc voilà, c'est un festival que j'invite les auditrices et les auditeurs à découvrir, et qui réserve plein de surprises. Quand je dis que c'est un festival qui est itinérant, les salles, il y a l'Épicerie Moderne, le Transborder, le CCO à Villeurbanne, la salle Barbara dont je viens en parler, À tout bout de champ, et puis Agendar en haut à la Croix-Rousse. Bref, une belle programmation qui se déroule donc du 15 au j'ai perdu les dates, du 15 au 25 mars, et il me semble que c'est pas très très cher les entrées. Oui, c'est ça, on est sur des tarifs assez accessibles. Puisque par exemple ce soir on peut avoir une place pour 15€ et un tarif réduit à 13€, donc voilà, ça reste quand même assez assez accessible pour le public, même pour aller au Ninkasi, Gerland au KO, pour aller voir Pierre Demar et Buridan, il ne vous en coûtera que 23€. Donc je vous invite toutes et tous à aller découvrir ce festival co-organisé par la salle d'Erancy et puis la MJC Léo Ferré.
Eh bien, c'est très bien. On a toutes ces dates, on a tous ces éléments. Peut-être qu'on va continuer avec un peu de musique parce que je peine à trouver le moyen de diffuser l'interview de Eugène Gibelanou. On va réussir. La musique s'impose un petit peu. La musique que je vais lancer, c'est Les Noces de Figaro. C'est l'ouverture des Noces de Figaro. Et alors, attention, auditeur, auditrice, je vous préviens. Francis, je te préviens, ça n'a pas commencé tout de suite parce que j'ai un bel enregistrement. Oui, j'ai pu... On me l'a remis, c'est l'Opéra de Lyon qui m'a remis cela. Accroche-toi bien, Francis, c'était en 2007. Punaise, ça fera bientôt 15 ans, c'est ça? Non, pas tout à fait, là, on en est qu'à...
14 ans.
On en est à 14 ans. Non, un peu plus que ça. Ça fait 15 ans, ça fait même 16 ans. C'est la production de l'Opéra de Lyon du 26 juin 2007. Et donc, j'ai l'enregistrement je crois que c'était Sophie Jarget à l'époque, elle me l'avait remis. Et donc c'est l'opéra lui-même et donc on a droit à l'arrivée du chef d'orchestre qui arrive sur scène, et une fois qu'il est sur scène, eh bien il lance l'ouverture, mais enfin voilà, il y a quelques secondes, je crois qu'il y a une vingtaine de secondes où il y a pas grand chose qu'on entend, je crois qu'il a des bruits de pas, on entend également le public qui applaudit, et ensuite l'ouverture démarre. Vous allez voir, déjà l'ouverture c'est un tube qui n'est pas chanté, alors que je l'ai bien dit tout à l'heure, Les Noces de Figaro, cet opéra de Mozart de 1786, livret de Lorenzo da Ponte, c'est Noces de Figaro, c'est absolument génial, je le savais, je crois que je l'avais oublié, et maintenant je le ressais, puisque je les écoute ces jours-ci, j'ai écouté cet opéra dernièrement, et c'est stupéfiant, il y a air sur air, chacun des personnages, Figaro, Suzanne, la comtesse, le comte, Chérubin, un personnage dont on parlera, Eugène Gibelanou, dans l'interview. Tous ont Marceline, Barberine, ont des airs qui sont vraiment, vraiment très beaux, de belles mélodies. On retient ça, c'est entêtant, c'est épatant, c'est génial. Faisons donc comme si nous étions vendredi 17 mars, 20h. Alors en fait c'est un saut dans le passé et puis même dans le futur. Vous êtes installés, vous avez vos places et donc le chef d'orchestre arrive, enfin les lumières se sont éteintes, vous avez un message qui a pu dire « Nous vous remercions d'éteindre nos téléphones mobiles et de ne pas chercher à prendre en photo les comédiens sur scène et pas non plus à les enregistrer. Veillez d'ailleurs aussi à bien les couper tout ça. » Enfin bref, nous vous souhaitons une bonne soirée. Je crois que le message est même donné en anglais. Et donc une fois que tout cela a eu lieu, eh bien l'opéra va commencer. Francis, es-tu prêt? Donc nous sommes vendredi 17 mars, ce sera la première des Noces de Figaro, la dernière sera le mardi 4 avril, mais là nous sommes, il est 20h05, il commence toujours en retard, hein, il commence pas à 20h pile, l'opéra commence, attention, accrochez-vous, il va falloir que je coupe, hein, parce que sinon on en a pour 3 quarts d'heure, hein. L'enregistrement n'est pas séquencé, je n'ai pas les pistes, donc là on va écouter l'ouverture seulement, Opéra de Lyon, production de l'Opéra de Lyon, 2007, mais 2023, les musiciens sont d'ailleurs presque un petit peu les mêmes. Thank you. Bien non, on va pas commencer l'opéra. Je vous avais prévenu, hein, si je ne coupais pas à la seconde près, j'ai tardé à le faire. Si je ne coupais pas à la seconde près, c'était loupé, puisque la piste ne s'arrêtait pas. Nous écoutions à l'instant là une production. C'est un enregistrement de l'opéra lui-même, de l'orchestre de l'opéra de 2007, et c'était bien l'ouverture des Noces de Figaro. On a reconnu un bel élan, une belle énergie. Attention à cet opéra, tout à l'heure j'évoquais la durée de Château de Barbe Bleue, 2h30, l'opéra est donné deux fois. Là, il s'agit de 3h35, dont un entracte. Mais ça les vaut. Une première partie d'1h40, un entracte, il le faut, hein, de 35 minutes, et ensuite une deuxième partie d'1h20, en italien surtitré en français, opéra en 4 actes, livré de Lorenzo da Ponte, création à Vienne en 1786. Il s'agit bien d'une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart. Je vous en donne un petit descriptif de l'intrigue et ensuite, cela devrait pouvoir marcher, nous écouterons le metteur en scène Eugène Gibeleanu. Jeu de dupes, porte dérobée, alliance des humbles contre les puissants, trahison, réconciliation, éloge du pardon. Ce chef-d'œuvre de Mozart est signé du metteur en scène et réalisateur Eugène Gibeleanu. Je crois que les mots de l'opéra sont très bien. Donc écoutons. Écoutons les propos tenus par le metteur en scène qui aurait dû être invité dans l'émission. Ça n'a pas pu se faire, mais nous avons pu l'avoir en interview. Une interview de 6-7 minutes dans laquelle c'est comme si c'était l'émission. Il se présente un petit peu assez rapidement et ensuite il indique ce qu'il en est de sa mise en scène de cet opéra qui commence ce vendredi 17 mars jusqu'au mardi 4 avril. Je pourrais peut-être indiquer plus précisément les dates. C'est en soirée à 20h, le dimanche à 16h et c'est dans le cadre du festival Franchir les Portes.
Sauf que du coup là je pourrais pas intervenir.
Ah non, tu pourras pas poser de questions, très juste.
Je peux faire semblant mais...
Ouais, tu pourras, au bout de 6-7 minutes tu pourras demander mais hélas...
Il répondra pas.
Hélas, il ne pourra répondre. C'est dommage, hein, je le rappelle encore une fois et je le laisserai parler ensuite. Et on aurait dû l'avoir le mercredi 19 février, c'était il y a presque 3 ans, lorsqu'il avait mis en scène l'opéra I was looking at the ceiling and then I saw the sky. Je regardais le plafond et soudain j'ai vu le ciel. C'est un propos de la librettiste June Jordan. Elle avait recueilli ce témoignage d'une personne, tremblement de terre à Los Angeles dans les années 80. La personne disait, voilà, je regardais le plafond et soudain, tremblement de terre, j'ai aperçu le ciel ensuite. Et opéra qui était donné au Théâtre de la Croix-Rousse. On aurait dû l'avoir, le metteur en scène, Eugène Gibeleanu. Ça n'avait pas été possible. On avait eu, néanmoins, des chanteurs étaient venus parler de la belle expérience qu'ils avaient eue avec ce metteur en scène. Ça ne se fait pas non plus cette année. J'espère que sous 3 ans, il reviendra et qu'on pourra bien l'écouter. D'ailleurs, ce sera la piste que nous mettrons tout à l'heure. On écoutera un extrait de cet opéra « I was looking at the ceiling and then I saw the sky » de John Adams, années 90. Là, pour l'instant, il est prêt, il est là. Enfin, disons, c'est comme s'il était là. Écoutons Eugène Gibeleanu, le metteur en scène de l'opéra « Les Noces de Figaro ». Interview de 7 minutes concernant sa mise en scène qui commence ce vendredi 17 mars. Bonjour Eugène Gibeleanu, vous mettez en scène les Noces de Figaro à partir du vendredi 17 mars prochain à l'Opéra de Lyon jusqu'au mardi 4 avril. Pourriez-vous nous dire peut-être en deux mots qui vous êtes, comment vous êtes devenu metteur en scène et surtout de cet opéra, et puis ensuite nous parler de cet opéra avec, je crois, une place importante accordée à la figure de Chérubin.
Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, moi je suis plutôt metteur en scène de théâtre, réalisateur de cinéma. Je travaille entre la France et la Roumanie principalement, mais aussi en Allemagne. projets, notamment comme je disais, théâtre et cinéma. Et puis cet opéra, Les Noces de Figaro, c'est pour moi la deuxième expérience dans ce monde de l'opéra. Après I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky, en 2020, au même endroit, avec une équipe très jeune, et sur un spectacle qui était vraiment une joie pour nous tous.
Nous avions reçu des chanteurs à cette époque, oui.
Oui, tout à fait. Alors maintenant, c'est une nouvelle expérience, aventure avec Les Noces de Figaro, dans un autre registre, évidemment plus classique, mais avec l'envie, avec la même envie de questionner la société d'aujourd'hui dans tout ce que cette œuvre raconte, soit dans le livret de Taponte ou sur la musique de Mozart. Et puis du coup, voilà, j'ai eu le plaisir de travailler avec une belle équipe de chanteurs et d'artistes collaborateurs qui étaient avec moi, Cosmine Flore en scénographie, Yann Berbure, collaborateur artistique, et toute autre personne pour la partie vidéo et puis pour la création de lumière. Bref, comme vous disiez, je suis parti de la figure de Chérubin pour questionner le genre, la représentation du genre sur le plateau, et je trouvais ça important d'amener en fait d'autres façons de faire dans les codes de jeu, dans la direction d'acteurs, de se mettre un peu en danger en fait, entre guillemets, à cet endroit de vulnérabilité et de comment on peut encore raconter cette histoire aujourd'hui, quel impact elle peut avoir pour la jeune génération en racontant des histoires qui sont finalement assez dur, hein, comme le fait de décider sur le corps de la femme par le système patriarcal, en fait, comment elle doit prendre ou pas ses libertés. Et voilà, je trouve que c'est aussi une histoire qui parle d'une certaine révolution sexuelle. Et moi, je crois qu'on est aujourd'hui dans une ère qui s'intéresse beaucoup à ça. Et donc voilà, c'est pour ça que Chérubin était pour moi, disons, hors d'entrée, un filtre de lecture pour raconter cette histoire en 2023 à l'opéra.
Peut-être pour terminer, pourriez-vous justement nous dire un peu, peut-être de manière avec quelques exemples, cette figure de Chérubin, tout d'abord aussi, est-il possible de rappeler ce personnage qui est un personnage qui pourrait sembler mineur, mais qui en fait a une grande importance dans cet opéra des Noces de Figaro. Il y a bien entendu les personnages de Figaro, Suzanne, le comte, la comtesse, Bartolo, Basile, il y a Don Curzio, Marceline, Barberine, mais ce chérubin qui gravite autour de tous, qui est-il vraiment? Et alors, comment le je ne sais pas, parler de... Il est interprété par une chanteuse d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est un jeune homme qui est chanté par une soprano.
Oui, tout à fait. C'est écrit comme ça, en fait, que ça soit chanté par une soprano. Donc, je trouve que c'était déjà un acte politique à l'époque de Mozart d'avoir fait ça. Évidemment qu'aujourd'hui, la lecture elle est encore plus libre, parce qu'on peut parler aussi d'une femme, du corps d'une femme qui aime une autre femme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait, parce que à chaque fois dans mes projets, j'essaie de traiter aussi de la question LGBT et puis d'amener en fait la diversité sur les plateaux à ces endroits-là. Et je dirais aussi que c'est pas que Chérubin qui est important. Évidemment, pour moi, ça donnait le filtre de lecture, et puis voilà, c'est le valet de l'histoire qui fait que les choses bougent d'une façon inhabituelle et surprenante, un peu comme Pouc dans, je sais pas, Le songe de l'identité de Shakespeare, si ce serait une référence à faire au théâtre. Et je trouve que c'est important aussi comment ce chérubin fait miroir en fait aux autres. Enfin, il leur met en fait une miroir au visage pour se questionner, pour se regarder, pour, comme je disais, se mettre un peu en danger face à leurs limites en fait. Et donc esthétiquement aussi, on avait cherché, travaillé, essayé avec Cosmine Flore, le scénographe, de représenter tous les personnages finalement dans une non-binarité où le masculin et le féminin se croisent, et du coup on n'est plus dans une représentation, disons, classique, stéréotypée de la comtesse, du comte, de ces personnages aussi, qui amènent évidemment une classe sociale et un débat là-dessus, thématique très importante aussi pour les Noces de Figaro, mais qui n'est pas... Enfin, on est tenté de ne pas à nouveau pointer du doigt, en fait, par le costume, ces différences. Et avec le dramaturge, collaborateur artistique, Yann Vermeer aussi, on avait profondément travaillé sur la direction d'acteurs avec l'équipe des chanteurs pour trouver, en fait, cet endroit d'honnêteté et que chacune d'entre eux et d'entre elles puissent apporter quelque chose de leur propre expérience.
Eh bien, je ne peux que vous remercier. Vous nous donnez vraiment envie d'aller voir ce spectacle, d'autant plus que cela a coupé. Je vous remercie. La musique, je crois, de l'orchestre de l'Opéra de Lyon avec Alexandre Bloch à la direction sera certainement formidable. C'est un catalogue d'air que cet opéra des Noces de Figaro. Première vendredi 17 mars, dernière le mardi 4 avril. Il y aura eu entre-temps 6-7, je crois, représentations. C'est à peu près ça. Bien, ce sera très bien. Merci encore, Eugène Gibelanou. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie.
Oui, ça se termine de manière peut-être un peu abrupte. Vous aurez compris, Francis, tu l'auras deviné. Je te remercie d'avoir assuré la technique pour cette interview. Tu auras remarqué, il voyageait en train, me semble-t-il. Hein, c'était plutôt du TGV que du tortillard des années 50-80. Voilà, metteur en scène qui nous a parlé. Tu auras compris les thématiques, hein, Francis. Thématiques du corps, thématiques du genre, thématiques du sexe, de la sexualité plutôt que du rapport sexuel. Quoique l'opéra tourne autour d'un rapport sexuel. C'est qu'en fait, lors de ces noces de Figaro de se marier avec Suzanne, eh bien, le comte veut exercer, alors qu'il vient de l'abolir, il veut exercer le droit de cuissage, c'est-à-dire le droit que le seigneur a sur les promises, sur les mariés de ses sujets. Il a droit d'avoir de passer la première nuit avec ses promises, et donc il l'a aboli. Et néanmoins, il veut le rétablir pour lui et seulement pour Suzanne, pour passer une nuit avec elle. Donc, enfin voilà, il est quand même question de sexualité, mais le metteur en scène nous l'aura dit, d'autres thématiques.
Avec une interprétation personnelle, et c'est ça qui est toujours intéressant, c'est que comment on peut recevoir un texte et comment un metteur en scène peut le traduire avec sa propre vision et sa propre envie de dire quelque chose aujourd'hui, avec un texte qui date, je sais pas, ça doit être
1786,
ça
n'est pas récent.
Donc voilà, 250 temps plus tard à peu près, d'avoir une lecture comme ça, je trouve ça toujours intéressant.
D'autant plus, auditeur, auditrice, peut-être un peu délicat à dire, mais les dernières productions que j'ai pu voir, en décembre dernier, le Candide de Bernstein, de Leonard Bernstein, la mise en scène était un peu compliquée dans la mesure où c'était un peu une sorte d'absence de mise en scène. Les comédiens étaient sur scène un peu livrés à eux-mêmes, il n'y avait pas vraiment de décor, pas tout à fait de scénographie, pas tout à fait de déroulement narratif, dramatique, enfin c'était assez compliqué. J'ai vu dernièrement aussi Mélisande, qui était très intéressant aussi, mais pareil, l'opéra Mélisande était en fait une sorte de une partie de l'opéra Péléas et Mélisande de Claude Debussy, et moi je n'ai vu que Mélisande. L'opéra de Lyon ne donnait que cette production Mélisande, donnée par mise en scène par le directeur de l'opéra de Lyon, Richard Brunel, avec quatre comédiens, Judith Chemla qui était à la fois comédienne et chanteuse sur l'opéra, également il y avait deux autres personnages, Golo, rôle parlé, Péléas, rôle chanté, et puis un autre comédien, Antoine Besson, qui lui avait un rôle parlé, et c'est donc un peu là, enfin, il y avait des choix de mise en scène, peut-être un peu...
Bah là, au moins, il y a un parti pris.
Voilà. Si et ce sera le cas avec Eugène Gibelanou, mais en décembre dernier, j'étais un peu sur ma faim.
Là, au moins, on sent que... Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, mais on sent qu'il y a un parti pris. Une vraie direction.
Tout cela commence le vendredi 17 mars, et se terminera le mardi 4 avril. Et pour que on reste sur la musique et non pas sur des mots, parce que prima la musica, poi le parole, écoutons un tube, ouais, c'est un peu un tube de cet opéra dont j'ai beaucoup parlé en début d'émission. I was looking at the ceiling and then I saw the sky, un opéra de John Adams, qu'Eugène Gibelanou a mis en scène en février 2020 à l'Opéra de Lyon, disons. C'était dans le cadre du Festival de l'Opéra de Lyon de l'époque, mais c'était au Théâtre de la Croix-Rousse. Écoutons non pas l'ouverture, mais écoutons le titre qui s'appelle Song Romance, c'est-à-dire une chanson... comment qualifier ça ? Est-ce que je l'ai sous les yeux ? Oui. Non, a sermon, n'importe quoi. A sermon on romance. Un sermon sur la romance, un sermon sur l'amour. Pourquoi ai-je choisi ce titre? Il est chanté par, par deux chanteurs, David, ainsi qu'une chanteuse, Layla. Ce sont les deux personnages et il me semblait que entendre des, une voix masculine et une voix féminine, parce que dans cet opéra il y a les deux certes, mais comme il y a souvent des déserts, c'est souvent chanté que par l'un ou que par l'autre. Donc écoutons, tu vas voir, c'est un bon tube, et puis ensuite je crois qu'on va arriver à ta chronique.
Très bien.
Et puis moi des annonces, théâtre, peu ces jours-ci, forcément le TNP sera investi par le Bluthaus de l'Opéra de Lyon. Si, au Théâtre des Marronniers, il y a une pièce qui s'en vient. Donc, extrait du I was looking at the ceiling and then I saw the sky. Et ensuite, deuxième partie de l'émission, même dernier quart de l'émission. Spectaculaire 291. Let me tell you the gospel according to this girl. Make me lose my religion. Hallelujah, hallelujah. Make me tremble, make me shiver. Make me a Lord God Almighty. Make me tremble, make me shiver. Make me good. The spirit, sweet, sweet Jesus, make me slap my hands and make me move my feet, make me slap my hands and make me beg and beg for mercy, make me praise her name, make me forsake all other names and tear up the pages, forswear the numbers. Gloria, Aisha, Rosalind, Patricia, which little girl?
La lecture n'est pas une science exacte, comme certaines émissions de radio d'ailleurs. Les invités de Spectaculaire ne sont pas non plus une science exacte. La lecture n'est donc pas une science exacte. Un auteur ne racontera jamais la même histoire à chacun de ses lecteurs ou de ses lectrices. Une histoire ne résonnera jamais de la même manière. Les émotions ont ceci de singulier, elles sont propres à chacun et à chacune. Ainsi, le petit chroniqueur presque littéraire que je suis n'est jamais ni objectif ni neutre. La lecture n'est pas une science exacte. Il est des périodes où l'envie de lire nous quitte, le besoin n'est pas présent. Eh bien, c'est un peu le cas pour moi ces derniers temps. Allez donc savoir pourquoi. Mais lorsque l'on est chroniqueur presque littéraire, eh bien, ça devient compliqué. Alors voici une alternative du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de celles et ceux qui nous font aimer les auteurs et les autrices. Je veux parler des libraires. Chronique presque littéraire, l'égoïsme se partage. Hashtag 25 ou 26 ou peut-être même 27, je ne sais pas. La lecture n'est pas une science exacte. Étant moi-même croix-roussien, je vais donc assumer mon chauvinisme pragmatique et vous parler de quelques librairies situées dans ces deux arrondissements qui nous entourent, le premier et le quatrième. Bien sûr, nous pouvons acheter nos livres dans ces grandes et célèbres maisons qui proposent également des cafetières, des téléphones ou même des aspirateurs. Mais acheter un livre, c'est aussi un acte politique. À la librairie du passage, point d'ordinateur ou d'appareil photo en rayon. Non, juste des livres. Rien que des livres. Des romans, des polars, des BD, des livres de jeunesse, des essais, et oui, plein de livres. Mais pas que des livres. Avec des commentaires, des libraires, avec des coups de cœur et quelques lignes rédigées sur un petit carton pour nous donner envie de l'acheter ou pas. Puis des conseils, non pas avec des vendeurs qui cherchent absolument à vous vendre le dernier livre de tel ou tel auteur. Non, des vrais conseils ou plutôt des discussions. Et puis il y a également ces rendez-vous et ces rencontres avec des auteurs et des autrices qui ponctuent l'année. La librairie du passage, elle est située au 11 rue de Brest et contrairement à ce que je vous ai dit en introduction, elle n'est pas dans le premier mais dans le deuxième. Pour les plus récalcitrants des Croix-Roussiens qui ont toujours du mal à descendre de leur plateau vers la vallée, il existe une librairie assez semblable à celle de la librairie du passage. C'est la librairie Vivement Dimanche. Elle est divisée en trois boutiques distinctes. La première, située Grande Rue de la Croix-Rousse, est plus ciblée sur des thématiques précises, le voyage, la cuisine, les manuels scolaires, bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment dans celle-ci que je me rends régulièrement. Ayant moi-même terminé ma scolarité depuis belle lurette et ayant récupéré l'intégralité des recettes de ma mère, je préfère flâner dans la seconde. Cette seconde boutique de la librairie du Vivement Dimanche est située aux 4 rues du Chariot d'Or à la Croix-Rousse. Et tout comme bonne librairie qui se respecte, nous pouvons flâner dans cette boutique et nous laisser guider par des petites fiches accrochées aux livres posées sur les étagères, ou encore se laisser conseiller par des passionnés qui y travaillent. Mon avant-dernière chronique sur Trévagnan, je la dois à ce libraire passionné de la librairie Vivement Dimanche. Promis, la semaine prochaine, je reprends mes chroniques presque littéraires habituelles, et puis, vous savez, la lecture n'est donc pas une science exacte.
Eh ben, super. Le générique a marché. Et pour entrer et pour sortir. Et la chronique sans ça, c'est très bien. Mais t'as complètement raison. Nous en avions parlé hors antenne, mais tout à fait. Enfin, évoque, chronique presque littéraire. Enfin, tu fais ce que tu veux. Pas forcément à évoquer des livres, des bandes dessinées ou n'importe, ou des mangas ou je ne sais quoi. Des lieux, pourquoi pas. Ou même, peut-être pourrais-tu évoquer, je ne sais pas, des moments de lecture, des lieux de lecture. Peut-être, par exemple, pourrions-nous penser à quelqu'un, lit-il dans le train? Est-ce qu'on peut lire dans le train? Est-ce qu'on lit couché chez soi, dans son lit, dans son canapé, dans la cuisine? J'ai entendu parler de gens qui lisent le matin, les fins de semaine, ou en semaine le matin, mais où lire le matin? Dans un bureau.
Ou faire appel aux contributions. Si jamais vous avez des petits coups de cœur à nous faire partager comme les libraires, et n'hésitez pas à... Je sais pas comment on fait pour nous contacter, en fait.
Eh bien, je suis en train d'y songer. Alors, il existe un numéro de téléphone, mais nous appeler en direct pendant l'émission, c'est jamais une très bonne chose, hein. Le 04 78 39 18 15. Normalement, c'est quand même compliqué de décrocher. Alors, peut-être ce qui est possible, c'est nous écrire. Moi, j'ai une adresse mail, christophe.rolin. Oui, je pourrais la mettre sur le blog, ro2lien@radiocanu.org. Donc, comme ça, éventuellement, on peut me contacter. Sinon, à une époque, le blog proposait des commentaires. Cela a été désactivé il y a cela quelques temps et c'est donc on ne peut pas laisser de commentaires. À une époque, effectivement, les gens pouvaient le faire. On m'avait d'ailleurs questionné. Ouais, c'était quoi le titre que vous aviez diffusé à tellement de l'émission? Je pouvais répondre, mais là maintenant la chose est fermée. Il est question, je crois, de réouvrir le système parce que à part ça, on n'a pas de page Facebook, pas de compte Twitter. Comment nous contacter? Venez aussi éventuellement. Et peut-être le mail reste éventuellement la meilleure manière, je pense. En plus
que tu peux écrire sur le
oui,
blog.
Oui, tu as raison. Je le mettrai. Mais il apparaît déjà, je crois, sur le blog. Il apparaît dans Qui sommes-nous, je crois, un truc comme ça.
Donc aviez aux lecteurs et aux lectrices, si vous avez des coups de cœur à nous faire partager, n'hésitez pas.
Je n'ai peut-être pas rappelé ce que nous écoutions avant le titre Le Wasuludon de Oumu Sangaré. Nous écoutions un extrait de l'opéra de John Adams, I was looking at the ceiling and then I saw the sky. Un opéra de 90-91, je regardais le plafond et soudain j'ai vu le ciel. John Adams est le compositeur de la musique, June Jordan est la librettiste, et pourquoi ai-je bien ces renseignements en tête? C'est parce que Eugene Gebeleanu, notre invité, avait monté en scène, avait mis en scène cet opéra il y a de cela 3 ans, et nous avions reçu des chanteurs, et d'ailleurs je crois qu'on avait reçu les chanteurs David et Leila, me semble-t-il, Axel, et puis j'ai perdu le nom de la cantatrice. Je vous renvoie à l'émission 221, je l'ai indiqué sur le blog le mercredi 19 février, fin d'émission. Peut-être qu'on peut se dire qu'on va lâcher avant la fin. Cette fois-ci, on pourra laisser le bus des canuts s'installer.
C'est ça.
Moi, les annonces, j'en ai peu. J'ai pu aller voir le Cyrano Project de Jérôme Sauvion au Théâtre Comédie Odéon. Rappelez-vous, auditeur auditrice, il était venu dans l'émission 280 et quelques le mercredi 8 février. Il est seul en scène. Il est seul sur scène, Jérôme Sauvion. Et il joue donc, Jérôme Sauvion, il joue tous les rôles de Cyrano. Le pitch, un metteur en scène abandonné de tous pour d'obscures raisons décide de jouer seul la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Son joue folie, peu importe, le personnage metteur en scène bascule et glisse dans son monde intérieur. Pendant qu'autour de lui les objets prennent vie, il endosse un rôle, puis deux, puis trois, puis tous, et c'est dans un élan désespéré et jubilatoire qu'il va se jouer mais aussi nous raconter son Cyrano. C'est au théâtre de la Comédie d'Odéon. Je ne sais pas si j'ai dit rôle ou rôle. Il joue des rôles. C'est donné jusqu'à ce samedi 18 mars. C'est bien ça? Oui, c'est ça, jusqu'au samedi 18 mars. J'ai annoncé tout à l'heure le 17, je ne sais plus à quelle occasion, mais je faisais erreur. C'est peut-être pour la première de Blue Taos. Ce sera dimanche 19 mars.
Alors peut-être moi rappeler encore sur les Champs de Mars qui démarre donc ce soir à la MJC Léo Ferré jusqu'au 25 mars, festival de chansons itinérant dans plusieurs salles. Et puis peut-être parler de la semaine prochaine.
Avant éventuellement d'arriver aux prochaines émissions, j'ai sous les yeux À tout bout de champ que tu évoquais tout à l'heure. Oui. Donc c'est leur programmation. Sinon sur scène chez eux, c'est quoi que c'est? Non, tu disais que c'était en fait, itinérant.
Voilà. Oui, c'est itinérant. C'est plusieurs lieux. Et là, eux, ils reçoivent ce qu'ils appellent les 24 heures du mot. C'est une création collective avec plein d'artistes de la région qui vont pendant 24 heures en fait écrire des mots, des chansons, et ensuite qui redonnent. J'ai lu tout à l'heure le 21 mars en concert au Rancy. Je crois.
Salle Barbara.
J'ai sous les yeux.
Alors, transition magnifique. La Salle Barbara, c'est là où sera donné le jeudi 27 avril. Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz? Nous recevrons le mercredi 5 avril, ce sera bien avant, nous recevrons le metteur en scène Franck Régnier de la compagnie Nandi pour nous parler de cette pièce qui tourne un peu sur Lyon. Ils étaient à Irigny fin février. Là, ce sera donc fin avril, ce sera la Salle Barbara qui est à Montchat. Donc nous recevons le metteur en scène. On pourrait effectivement procéder bien à l'inverse. Donc le 5 avril, le 29 mars, la semaine d'avant, mercredi 29 mars, nous recevrons Alban Lafanécher, présidente
du Quai du Polar.
Pour l'édition qui aura lieu du vendredi, c'est ça, au dimanche? C'est toujours comme ça qu'il est
pas là. Je crois, oui, c'est ça.
Donc
oui,
c'est vendredi 31 mars au dimanche 2 avril.
Oui.
Elle vient nous parler de la programmation. Je crois qu'il y a du William Boyd, notamment.
Tout à fait.
Peut-être.
Tout à fait.
C'est quoi? C'est alerte spoiler alerte sur une chronique littéraire qui sera faite prochainement. Le 22 mars, nous recevrons, bien c'est la semaine prochaine, nous recevrons
le chalala.
Le bar à spectacle.
Le bar à spectacle.
Sur les pentes de la Croix-Rousse.
Montée de la Grande Côte.
Il donne plusieurs spectacles actuellement. En fait, c'est surtout sur les vendredis et samedis. Il donne de Fab Caro et Si l'amour s'était aimé. Ils l'ont adapté. Je l'ai vu. C'est totalement stupéfiant. Barré. On a l'impression de lire la BD, mais en fait, en mieux ou en différent. Tu nous chroniqueras la BD peut-être?
Tout à fait. C'est prévu.
Donc, c'est assez stupéfiant. Il y a également un autre spectacle aussi qui est donné. C'est un hôtel particulier. Et puis, le Chalala, ce n'est pas un bar à spectacle qui ne marche que les vendredis et samedis. Il y a également des programmations le mardi, c'est de l'impro. Le mercredi, je ne sais plus. Et le jeudi, c'est également autre chose. On y va peut-être demain soir?
C'est de l'impro, j'ai cru comprendre.
Il y a des spectacles divers et variés. J'avais des éléments sous les yeux. Est-ce que je peux les retrouver et vous en faire part? C'est un spectacle qui s'appelle Demain. L'usine éphémère, de l'écriture à la mise en scène, en passant par le travail d'acteur, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la naissance d'une pièce? C'était à 19h19, mais a priori, je sais pas si on va pouvoir réussir à s'y rendre, c'est complet.
C'est souvent complet.
C'est
ça
souvent
veut dire
complet.
Il faut prévenir les auditeurs et les auditrices que s'ils veulent s'y
rendre,
il faut réserver à l'avance.
Il faut réserver. On a fait le tour, non? Il nous reste encore les émissions quand on sera rendu en mai. Pas tout de suite. Le 26 avril, tout d'abord, nous aurons un photographe, Jérôme Forêt. J'ai déjà annoncé cela sur le blog. Il exposait ses photos en fin janvier, début février, à la bibliothèque du 1er arrondissement. Il va également les exposer à Paris, à la Maison russe de la culture et des sciences. Et il viendra nous parler Sujet peut-être un peu délicat, nous verrons comment l'aborder avec lui. Des photos de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et puis, pas encore tout à fait décidé le 3 mai, mais il est possible que nous parlions du TNG et le 10 mai, pour terminer.
Du festival changé
d'air. Le festival changé d'air, avec l'édition, la nouvelle édition à venir. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'avais dit que je voulais annoncer le Théâtre des Marronniers, et on aura terminé. Le Théâtre des Marronniers, nous avions déjà reçu Damien Gouy, il y a de cela quelques années. Et là, Damien Gouy met en scène une pièce intéressante, une pièce qui... vais-je la retrouver ? Oui, je vais retrouver tous les éléments. C'est, enfin, pièce, plutôt spectacle. Louis Aragon, je me souviens, par la compagnie Théâtre en Pierre Doré, du 22 au 29 mars, c'est-à-dire du mercredi prochain jusqu'au mercredi suivant, théâtre musical, tout public dès 14 ans, pour les 40 ans de la disparition de Louis Aragon, voici une plongée dans ce recueil où l'auteur se livre sur son enfance, sur la guerre et son amour pour Elsa Triolet, femme de lettres et résistante française, écriture inouïe, libre, insolente, tour à tour simple et savante, et qui a le génie de s'adresser à tous et à toutes. C'est autour donc du roman inachevé, c'est au Théâtre des Marronniers, c'est sur la petite rue des Marronniers, et je crois que ce sera tout. Le Périscope, on en parlera une autre fois, Marché-Gare, Virginie Despentes était à Lyon hier, il y a aussi...
Eh bien Christophe, je t'annonce qu'il est 14h58 et que tu as encore tout à fait réussi cette émission sans invité. Bravo, quel talent, bravo.
On a beaucoup parlé, on a quand même eu l'invité. Et je te remercie Francis, hein. Tu as assuré la technique pendant cette interview et c'était un bel exploit. Nous lançons dans quelques secondes le Blues des Canuts. Je propose de poursuivre un peu l'aventure que j'indiquais tout à l'heure. C'est-à-dire, nous sommes à l'Opéra, vendredi 17 mars, ou bien une autre date. J'ai dit que je les donnerais. Je sais plus. Elles sont à trouver sur le site de l'Opéra, ces différentes dates de... Des Noces de Figaro, dimanche 19 mars, c'est à 16h. Mardi 21 mars, c'est à 20h. Vendredi 24 mars, à 20h. Dimanche 26 mars, à 16h. Mardi 28 mars, samedi 1er avril et mardi 4 avril, c'est donc les Noces de Figaro. C'est ce que nous allons écouter, la production de l'opéra. Voilà, c'est comme si on y était. L'ouverture vient de se terminer. On va écouter seulement le début. Figaro compte. Qu'est-ce qu'il compte ? Il compte les mètres et les centimètres pour savoir si son lit tiendra dans la chambre conjugale qu'il envisage, puisqu'il s'agit bien de l'opéra Les Noces de Figaro. Figaro souhaite se marier. Le comte Almaviva veut peut-être l'en empêcher. Écoutons Figaro et Suzanne. C'était la production de 2007. Ce sera une production différente en 2023, avec la mise en scène d'Eugène Gibelanou, que nous n'aurons pas vu aujourd'hui. Les émissions à venir. Si, il faut qu'on s'amuse en fin d'émission, comme toujours, les émissions à venir. Tu connais le truc, hein, Francis.
En fait, on ne sait pas.
15h, Blues des Canuts, 17h, Mélomaniac, 18h, Mayday, 19h, Canu Info, 20h, Idées Noires, émission de l'UCL, 21h, Bande-son de nos révoltes, ou bien à l'Est l'Éden, je le saurai, bientôt je le saurai, 22h, Boulimix, auditeurs, auditrices, portez-vous bien, l'émission sera retrouvée sur le blog, peut-être pas en entier, mais ce sera une bonne partie qui sera retrouvée et ça viendra plus tard. Portez-vous bien, sortez, réservez si vous allez à l'Opéra ou au Chalala. Et puis voilà, nous sommes à l'Opéra de Lyon. Est-ce que je l'ai calé ? Oui, je le cale. Portez-vous bien tout le monde. Ciao Francis.
Salut.
Bye bye. Ah ben non, je lance le générique. Il fallait bien.